Paris Culture, présenté par Quentin Perquis, un samedi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bienvenue, nous sommes le samedi 25 mai 2024 et cette date marque les 160 ans de la Croix-Rouge française. Je ne sais pas si vous le saviez, 160 ans d'engagement, d'action et d'inspiration tout au long de cette année anniversaire seront mises en lumière les actions de l'association. Depuis 160 ans, l'engagement de ses 75 000 bénévoles et 17 200 employés auprès de millions de personnes vulnérables qui ont croisé sa route. Aujourd'hui, il est 18h01 et vous écoutez Paris Culture, le moment parfait. Eh bien oui, pour connaître les bons plans pour ce week-end aujourd'hui, moi j'ai le bonheur d'accueillir le duo Atom dans la rencontre. C'était lors du Chorus Festival en mars dernier. On parlera festival également avec l'arrivée du festival Solidays à Paris. Peut-être vous y allez vous aussi. Pour vos idées sorties du week-end, je vous présente le film Challengers. Et Laurie, cinéphile et originaire de l'Est de la France, si je dis pas de bêtises, nous exprimera sa chronique. Bonjour Laurie.
Hello Quentin.
Comment tu vas?
Très bien et toi?
Super. First radio pour toi.
Exactement. Mais ça va très bien, ça.
Et ça se passe déjà très très bien, effectivement. Axel Alphonse est avec nous également. Il nous présentera ses projets du haut de ses 20 ans. Bonjour Axel.
Bonjour Quentin.
Des premières radios également.
Exactement, merci beaucoup.
C'est avec grand plaisir et c'est avec grand plaisir de vous recevoir tous. Enfin, Thomas est à mes côtés en studio aujourd'hui. Il nous a préparé une riche sélection de sujets musicaux cette semaine. De quoi vas-tu parler, Thomas?
Alors, on va parler un petit peu d'industrie musicale, comme j'ai l'habitude et comme j'aime le faire. On parlera d'intelligence artificielle. On reviendra aussi sur David Guetta, qui a une nouvelle date en France. Et on finira par un top 100 des meilleurs albums du monde, tout simplement.
Ok, et eh bien ravi que tu sois là avec nous en studio. Pour toi, c'est plus ta première fois.
Non, effectivement.
C'est un habitué, on peut le dire, pour suivre en temps réel toutes les actus de l'émission. Tout se passe sur mon Insta, Quentin-Perquis. Tout de suite, voici l'état du trafic en temps réel sur les lignes de la RATP. Si vous êtes actuellement sur le réseau RATP au niveau de Paris, donc forcément, il y a quelques petites perturbations, notamment sur la ligne 6 du métro. Il faut savoir que le trafic est perturbé. La ligne 7 est totalement à l'arrêt, voilà. Il est totalement interrompu. Sur la ligne 11 également, quelques petites perturbations. Et également la ligne 14 qui est totalement interrompue. Si vous souhaitez vous déplacer, eh bien prenez peut-être un autre itinéraire. Pour plus de détails, en tout cas, vous savez, vous pouvez vous rendre directement sur l'application Bonjour RATP, sur le site internet également, ratp.fr/info. Au trafic. Nous, juste avant de parler des sorties ciné, moi j'ai le plaisir d'accueillir Axel Alphonse, je le disais tout de suite, jeune entrepreneur du sud de la France, il a 20 ans et il possède déjà son entreprise. Axel, bonjour.
Bonjour Quentin.
Rebonjour. Tu as 20 ans, si tu dis pas de bêtises. Exactement. Tu es étudiant à Schema Business School, tu es plein d'ambition puisque tu as monté une association, ensuite une société quelques temps après qui tourne autour d'une seule et même passion, l'automobile.
Exactement.
Ça dure depuis combien de temps? Depuis tout petit?
Oh, ça fait depuis tout petit que je suis passionné, ça fait depuis l'âge de mes 11 ans. Et le fait d'avoir pu lancer justement tout ça à partir de mes 18 ans, dès que j'ai eu l'âge légal pour lancer tout ça, je l'ai fait. Donc d'abord avec TSE Supercars, qui est mon association, dans le but de créer des événements justement dans le sud de la France autour de l'automobile. Et par la suite, TSE Collection, qui est une société qui a pour but justement de proposer des services qui vont faire vivre en fait les automobiles de ses propriétaires de prestige.
D'accord, ok. Donc on va décortiquer tout ça un petit peu, histoire de quoi on parle. Donc tu le disais tout de suite, l'association s'appelle TSE Supercar. Moi, en même temps, si vous nous écoutez, je vous invite forcément à vous rendre sur Internet, vous recherchez sur Google, on en reparlera des sites et des réseaux juste après. Et c'est en tout cas décrit sur ce site justement comme le rendez-vous ultime des passionnés de Supercar. Alors justement, pour cet asso, quels sont les différents événements que vous proposez?
Alors on propose 4 événements par an, 3 événements sur un jour, okay. Et un rallye de 2 jours qui s'appelle le rallye des châteaux. C'est vraiment l'événement phare celui-là. C'est 2 jours où on va visiter, normalement on fait 6 châteaux. Okay. Ça peut varier de 5 à 7 selon. Donc 6 châteaux dans la région PACA et chaque château est une expérience différente. Donc on peut avoir un château qui va nous proposer une dégustation de vin, un château dans lequel on va dormir, un château dans lequel, okay, on va faire un grand dîner. Voilà, c'est plein d'expériences. Et sur les événements journaliers, c'est un peu la même chose. C'est vraiment à chaque fois, moi et mes équipes, on cherche à créer une expérience unique que les propriétaires n'auraient pas vécue et qui, en fait, le fait de le vivre autour de d'un nombre de passionnés et de ces voitures rend l'événement juste voilà, incroyable.
Incroyable, forcément. Alors forcément, toi, pour développer un tel projet, j'imagine qu'on passe forcément par l'élaboration d'un business plan, d'un travail sur le marché et bien évidemment des besoins aussi en amont. Ça a été un gros travail de préparation, ça, ou pas?
Alors, ça a été un gros travail de préparation, surtout, je dirais, de se lancer dans tout ça, parce qu'il faut être prêt, en fait, à se dire qu'il y aura les retombées, même si là, c'est une association, donc c'est vraiment juste voilà, pour le plaisir, en fait, de la passion. Mais c'est vrai que le fait de viser des lieux qui sont quand même très prestigieux, voilà, des beaux châteaux, des beaux endroits, des belles expériences, ça a forcément un coût. Et voilà, il fallait vraiment préparer tout ça pour permettre une expérience qui soit sans faute et qui permette, en fait, d'avoir le maximum de retombées. Et la retombée, c'est en fait l'inscription de ses propriétaires.
Et alors, pour l'instant, ça marche?
Pour l'instant, ça marche super bien. On a plus de 200 propriétaires d'automobiles dans le sud de la France qui sont tous très heureux, très contents de la team, des événements qu'ils vivent. Et ça continue ainsi. Le prochain, c'est le 29 juin dans les hauteurs de Monaco. On va faire les routes de rallye qui sont celles du rallye de Monte Carlo. Donc, ça annonce de très beaux moments.
Trop, trop bien. En plus d'une association, tu gères aujourd'hui une société toute récente, TS Collection, axée sur l'organisation d'événements, la création de textiles, la recherche personnalisée et les shootings photo vidéo. Il s'agit de métiers totalement différents les uns des autres. Pourquoi cette volonté de proposer 4 services dès le lancement? C'est un peu une prise de risque, non?
Oui, alors la société, elle est partie d'une question très simple. J'ai juste regardé, avec toute l'expérience qu'on a pu avoir avec TSE Supercars, quels étaient tous les services dans lesquels nous avions réussi à réellement tirer le meilleur. Et en fait, donc, vu qu'on travaille avec plusieurs personnes, ces personnes sont très différentes, mais sont vraiment à l'apogée de ce qu'elles savent faire. Ce qui fait qu'on propose 4 services totalement différents, mais qui sont juste réalisés d'une façon fabuleuse. Et l'intérêt, c'est justement qu'on va apporter justement à ces propriétaires des services qu'ils n'ont pas l'habitude d'appeler. Et justement, c'est ces services-là qui vont être super intéressants et qui, contrairement au fait d'entretenir, par exemple, le véhicule, nous, on va faire vivre la passion.
C'est ça, ok. Et partager entre chaque passionné et toi, donc tu es aussi un passionné, bien évidemment. À 20 ans, on n'a pas forcément l'expérience des anciens. Ça n'a pas été un frein, ça, pour toi, de te dire bah voilà, un tel lancement, peut-être même des crédits à rembourser, je ne sais pas, ça fait pas, il n'y a pas un petit côté où ça fait peur, il n'y a pas de l'adrénaline de se dire, voilà, 20 ans?
Alors, il y a toujours de l'adrénaline, hein, il y a toujours des doutes, il y a toujours des questionnements, ça c'est sûr. Mais j'ai eu la chance d'être quand même très bien encadré, de rencontrer un bon nombre de personnes dans le milieu de l'automobile qui sont bien plus âgées que moi et qui m'ont beaucoup appris et avec qui j'ai beaucoup avancé, beaucoup parlé et qui justement m'ont permis en fait d'avoir des bases extrêmement solides, extrêmement travaillées de par leur savoir et le mien du haut de ce que l'on sait faire maintenant avec la nouvelle génération, et qui ont permis de créer ça avec, on va dire, l'esprit le plus serein possible.
Ok, très bien. Alors, si tu devais résumer ces deux projets en deux mots, ce serait quoi?
Voilà. Alors, en deux mots, bon, le premier, c'est sûr, c'est passion.
Ok, très bien.
Bon, et le deuxième, c'est voilà, je dirais juste expérience, parce que okay, tout ce que je propose est une expérience faite à notre manière, d'une façon très humaine, et voilà.
Ok, pour l'instant, vous êtes combien dans l'entreprise?
Alors, pour l'instant, dans l'association, on est 8.
Ok, 8.
Dans l'association.
Très bien.
Et dans la société, alors, on travaille avec 5 personnes en tout, justement, pour tous ces différents services.
Ok, très bien. Et alors, en deux mots, quels sont les prochains événements à arriver et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux?
Alors, prochain événement, le 29 juin, Convivialité Automobile, il s'appelle. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, tsecollection.com, au niveau de la société, donc pour les services automobiles, et au niveau des événements automobiles, tse-supercars avec un s.fr.
Super. Sur Instagram également ou pas?
Oui, tse-supercars-expérience.
Ok. Très bien. En tout cas, on note ça. Super. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui témoigner.
Quentin,
je te souhaite énormément de courage pour la suite de ces projets. Ne perds jamais de vue tout ce que tu veux faire.
Merci beaucoup. Merci.
Avec plaisir. Si vous sortez ce week-end ou peut-être même dans les jours à venir, voici la chronique sortie ciné. Aujourd'hui, on évoque un film sorti en salle il y a presque un mois déjà, jour pour jour, Challengers, 2h11 durant lesquelles on retrouve Zendaya, Josh O'Connor ou encore Mike Fest, et je prie pour prononcer ses noms et prénoms correctement. Dans ce film de Luca Guadagnino, durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent, et des tensions jusque-là inavouées refont surface.
Tu crois que le tennis est un moyen de t'épanouir, de t'exprimer, mais tu sais pas ce que c'est le tennis.
C'est quoi alors? Tashi Duncan, elle est surclasse toute. T'as été géniale aujourd'hui. Elle aura une ligne de vêtements, une fondation. Elle fera la fortune de toute sa famille. Tu vas faire quoi maintenant?
Malheureusement, je sais rien faire d'autre que taper dans une balle.
Je veux que tu sois ma coach.
Ça vous arrive souvent? De draguer la même fille?
Alors, les critiques de la presse sont plutôt bonnes. Le journal du dimanche affirme, je cite, « La mise en scène stylisée sert d'écrin à une performance convaincante des acteurs, dont l'alchimie à l'écran est évidente. Un match psychologique arbitré par Zendaya, vénéneuse à souhait. » Fin de citation. Le Monde affirme également, je cite, « Qu'avec beaucoup de virtuosité et sans jamais trop nous perdre, le film entrechoque ses deux époques, un âge d'or et un présent morne, faisant le compte des illusions perdues, tout en observant la manière dont le désir, lui, et la seule chose qui ne soit pas usée avec le temps. » Fin de citation. Et enfin, Télérama affirme, je cite, « Tennis et triangle amoureux, un challenge plutôt réussi par le réalisateur de Call Me By Your Name, qui mise essentiellement sur le magnétisme érotique de ses interprètes. » Fin de citation. Alors Samuel Douer, rédacteur en chef écran, s'est exprimé pour Télérama.
On sait que Luca Guadagnino, il est assez bon pour filmer le désir. Et là, le film est vraiment chaud comme la braise. Hein. S'il y va, il y va. Il a peur de rien. Il se fait même très, très, très plaisir dans certaines séquences. Je ne suis pas sûr que dans les douches et les vestiaires collectifs de ces messieurs, tout le monde se trimballe dans le plus simple appareil de cette manière-là dans des grandes compétitions de tennis. Mais bon, pour Luca Guadagnino, c'est tout à fait possible. Il en profite et il en fait profiter les spectatrices et les spectateurs.
Marie Sauvion, rédactrice en chef adjointe cinéma, s'exprimait aussi pour Télérama.
C'est vraiment, effectivement, Samuel le disait, le roi du désir. On se souvient d'Amore avec Tilda Swinton. Donc c'était une grande bourgeoise qui tombait amoureuse d'un chef cuistot et qui changeait de vie complètement. Et évidemment, on se souvient de Call Me By Your Name avec Mimi Chalamet. Et là, voilà, mais qui était un film très émouvant, etc. C'est pas tellement le cas de celui-ci. Je ne vais pas mentir et commencer à dire que c'est vraiment un film excellent, etc. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que je me suis bien amusée? Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, ils tiennent leur raquette quasiment comme leur petit Jésus. Et cette idée de désir, elle suinte par tous les plans du film.
Après les critiques de la presse, il est tout aussi important d'avoir le ressenti côté public. Laurie est aujourd'hui avec nous. Rebonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante et cinéphile. Tu es justement allée construire ta propre opinion au sujet de ce film. Oui. Tu l'as vu récemment?
Je l'ai vu hier soir.
Hier, ok.
C'est
donc,
tout frais.
C'est tout frais. Donc dans ta tête, il y a tout.
Tout est clair.
On peut poser toutes les questions.
Oui.
Ok, on y va. Je plaisante. En tout cas, toi, déjà de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film?
Déjà, en termes de photographie, c'est très plaisant pour une cinéphile. C'est vraiment bandant, littéral. En fait, le film est bandant de manière littérale dans les jeux des acteurs, dans la photo, dans la BO qui est incroyable et qui vraiment réveille le spectateur. Et en fait, ça te prend tout le long. T'es pris vraiment comme dans un match de tennis, en fait. Et t'as des moments qui sont down, comme dans un match qui peut des fois durer des heures et des heures et des heures. Et t'as des moments où ça, justement, la pression remonte. Et c'est ça tout le long, et t'es pris comme dans un match, en fait, t'as l'impression de voir du sport, okay. Plus que même des fois un film.
Ok, donc t'étais déjà un peu au JO
un peu, ouais.
Avant que ça commence.
Exact.
Intéressant, et il y a peut-être des choses que t'as moins appréciées?
Il y a certains moments qui sont des transitions, après c'est vraiment que de mon point de vue un peu cinéphile.
Non, mais justement.
C'était pas, ça t'en me dire, ah, dommage, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de piquant, et en fait ça redescend, un peu déçu. Même des fois dans la FX, il y a un plan vers la fin où on voit les trois, et j'étais en mode, oulala, pourquoi est-ce qu'ils se sont tentés à ça? Mais de manière générale, c'est vraiment très très kiffant, j'ai pas trop de big points négatifs.
Okay.
C'est vraiment un film qui appuie sur le bouton on, que ça soit au niveau de tes sentiments, et c'est vrai que c'est très sexuel en fait. Tu ressens le sexe au niveau juste des relations entre eux, entre les trois personnages et vraiment entre les trois.
C'est vraiment un triangle.
Ouais, voilà.
Okay.
Et sexuellement, même en tant qu'amitié, il y a le réalisateur aime beaucoup avoir des main relationships très intenses, que ce soit dans Call Me By Your Name ou genre du coup dans ce film. On le ressent vraiment beaucoup et c'est très plaisant. T'as pas cette barrière hétéro de la femme et tout. C'est tout le monde très intense dans les relations. Et c'est ça qui nous réveille un peu en soi, parce qu'on aime qu'il y ait du piquant dans nos vies.
Et donc très ancré dans la société à la fois.
Ouais.
Ok.
On ne se sent pas... personnellement, je ne suis pas sentie en mode à côté de la blague. Ou, c'est sûr que bon, il y a certains plans, tu te dis, ben, on n'a pas la même vie, mais en même temps, en étant étudiante, forcément.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Toi, tu connaissais le réalisateur de base ou pas?
Ouais, bah, j'ai vu Call Me By Your Name. Et très drôle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui l'ont vu, il y a un moment, dans le film, il y a une ref aux pêches. Donc, si vous avez vu Call Me By Your Name, vous saurez de quoi je parle. Donc, il y a une petite référence dans le film par rapport à ça. Je vous laisserai chercher, c'est très drôle.
Ok, carrément. Très bien. Et qu'est-ce que, enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui nous écoutent et qui encore hésitent un petit peu avant d'aller le voir?
Franchement, c'est pas le film de l'année où vous allez sortir en disant « Ah, mais purée, je m'en souviens pendant des années. » Mais c'est vraiment un fort divertissement et qui va vous réveiller et vous sortir de votre quotidien. Perso, j'ai été requinquée en sortant de la salle de cinéma, je me suis pas du tout endormie. Donc vraiment, et écoutez la BO. Ça va vous motiver.
Bien sûr.
Tous les jours.
C'est noté. Un grand merci, Laurie, d'être venue aujourd'hui sur Radio Campus Paris. Peut-être même on te retrouvera à la fin de la saison. Je peux l'annoncer en direct. La fin de la saison, ce sera une émission qui sera en public. Ce sera super sympa. Voilà. S'il y a des gens qui veulent venir, ce sera pour la toute dernière. Ce sera fin juin. J'ai plus la date en tête. Mais voilà. En tout cas, si jamais, tu es la bienvenue.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Challengers, c'est un film de Luca Guadagnino actuellement dans les salles. Tout de suite, on s'écoute un son qui sent l'été, mais ça fait du bien. I Got Summer on My Mind, Jade Ham sur Radio Campus Paris. Ça fait du bien, un son d'été, je sais pas ce que vous en pensez en studio, mais on a envie d'aller danser sur des open air, Thomas, toi qui es chargé musique.
Exactement, bah écoute, Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir cet été.
Tout ce que tu veux. Hein.
Très bien, on donne rendez-vous en tout cas dans les festivals dans lesquels on va parler, on donne rendez-vous dans les open air, bien évidemment. Côté météo, pour avoir un petit temps, une petite vue d'ensemble de comment vous habillez pour la fin de la semaine, c'est bien. 22 degrés demain, du soleil, très peu de nuages, ok. Alors, en revanche, la fin de la semaine s'annonce un petit peu plus grise, notamment pour lundi, mardi, 18 pour les maximales lundi, 19 pour les maximal mardi, et enfin ce sera pluvieux sur l'ensemble de la fin de semaine de mercredi à samedi, 19 pour les maximales sur l'ensemble des jours. Si vous voulez retrouver ces prévisions météorologiques, bien évidemment vous pouvez vous rendre sur le site de météofrance.com. tout de suite, sortie musique, une chronique présentée par Thomas Kemar.
Et oui Quentin, c'est parti pour cette chronique musique, et sache que cette semaine j'ai pensé à toi. Je sais que tu te bats contre l'intelligence artificielle dans le monde de l'art, oui. Et en tout cas sache que tu n'es pas le seul. Le groupe Sony a décidé cette semaine de mener une guerre ouverte à l'IA et à ses développeurs au travers d'une lettre salée. Leur position est claire, ils ne veulent plus que leur musique soit utilisée dans le cadre de projets en lien avec l'intelligence artificielle. Okay. Alors pour vous faire un petit rappel, Sony Music, il faut savoir que c'est le deuxième plus gros label musical du monde, juste derrière Universal, et ils détiennent notamment les droits de certains des artistes les plus influents de la planète, comme Adele, Beyoncé ou encore Michael Jackson. Alors, pour protéger ce catalogue bien repli, la marque japonaise a envoyé une lettre à plus de 700 acteurs du secteur. Les grandes entreprises sont bien sûr ciblées, comme OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, Google ou encore Microsoft. La lettre a aussi été envoyée à des développeurs plus indépendants, mais qui travaillent aussi sur ces domaines de l'IA. En gros, pour vous donner un petit peu de contexte et essayer de faire simple, pour qu'une intelligence artificielle devienne performante, elle a besoin de se nourrir. Son apprentissage passe avant tout par la quantité d'informations qu'elle réussit à ingérer. Pour vous donner un exemple, lorsque Spotify travaille sur un outil de DJ intelligent, elle se base sur la musique qui existe déjà dans le monde. Seul problème, cette musique a un propriétaire qui n'est pas forcément d'accord avec cette utilisation de sa musique. Sony considère donc que sa musique, qui, je le rappelle, représente une source primaire pour l'avancée de l'IA, est exploitée de manière illégale par bon nombre d'entreprises. Dans cette lettre, elle s'adresse également au gouvernement en demandant un encadrement juridique de ses pratiques. Cette démarche, et vous en doutez sûrement malheureusement, n'est pas que purement bienveillante. Une grande part de business rentre bien évidemment en jeu. L'objectif est surtout de tirer profit de son catalogue et de trouver un juste prix pour cette nouvelle exploitation. You got me dancing and crying, rolling and flying. 21 juin 2025, c'est la date qu'il faut absolument retenir si vous êtes fan d'électro. Plus que la fête de la musique, cette date marquera le grand retour en France de David Guetta, qui a annoncé un concert exceptionnel au Stade Vélodrome. Petite dédicace d'ailleurs à tous les Marseillais ou Aixois qui nous écoutent en ce moment. Pour rappel, David Guetta, c'est l'un des DJ les plus influents de la planète. Depuis 2019, il se classe chaque année sur le podium du prestigieux classement des meilleurs DJ au monde. C'est aussi devant DJ Snake et de loin l'artiste français le plus écouté à l'international. Il revient donc dans ce cadre pour une tournée énigmatique nommée Monolith Tour. Alors énigmatique pourquoi ? Eh bien parce qu'aucune autre date n'a pour l'instant été annoncée par l'artiste, et qu'en réalité David Guetta n'est pas un grand adepte des tournées solo. Sa dernière date de 2014 à l'occasion de la sortie de l'album Listen. En tout cas, le show a l'air extrêmement impressionnant et bien travaillé, avec ce fameux monolithe qui sera à la base de la scénographie. Si vous souhaitez y aller, j'ai enquêté ce matin, j'ai regardé, il reste encore quelques places, mais attention, je pense qu'il va falloir les récupérer très très vite, parce que c'est en train de s'écouler comme des petits pains. Quentin, tout le monde autour de la table, j'espère que cette chanson fait partie de vos grands classiques, car elle compose l'album qui est considéré par Apple Music comme le meilleur de tous les temps. La plateforme de streaming du géant américain Apple a en effet publié cette semaine la liste des 100 meilleurs albums que le 4e art nous ait offert au cours de l'histoire. Et c'est donc The Miseducation of Lauryn Hill qui décroche la Palme d'Or, prix qui est à mon sens mérité au vu de l'influence de ce dernier, de ce projet dans la musique des années 2000. Clairement, je pense qu'il n'y a pas un son sur l'album qui n'a pas été samplé par le rap américain. En tout cas, ce classement prend en compte des critères plus subjectif qu'objectif, s'éloignant un instant des chiffres de vente et des données liées au streaming, et en vérité ça fait du bien, pour se concentrer sur la qualité des œuvres. Il faut savoir que le panel de votants est composé d'artistes, de producteurs ainsi que d'experts de la musique. Dans le top 10 de ce classement, on peut retrouver d'autres monuments de la chanson tels que Purple Rain de Prince ou encore Thriller de Michael Jackson. Ouais. Et il y a aussi des projets qui sont plus récents, et j'étais assez content de le voir, Blonde de Frank Ocean, qu'il y a un album que je conseille à tous d'écouter au moins une fois dans votre vie. En tout cas, sachez que si vous êtes abonné d'Apple Music, il y a des petits podcasts qui sont disponibles et qui retracent assez bien et assez rapidement ces albums. Et dans tous les cas, vous pouvez retrouver cette liste des 100 albums sur Internet que je vous conseille évidemment d'aller écouter et regarder.
Très bien, eh ben, merci beaucoup en
tout
cas.
Avec grand plaisir, Quentin.
Cette chronique était donc présentée par Thomas Kemar. On vous emmène maintenant au théâtre, on découvre les pièces actuellement à l'affiche. Une sortie sympa et puis qui change pour le week-end. Cette semaine, dans notre sortie théâtre, on s'intéresse à la pièce « Chers parents » jouée au Théâtre de Paris, une pièce d'Armel et Emmanuel Patron. Alors que ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d'urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer. Les trois enfants bouleversés se précipitent, craignant le pire. Mais le pire n'a pas lieu, du moins pas tout de suite. Et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale, faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu'ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt.
Moi, je suis Jeanne.
Et moi, c'est Vincent, son mari depuis près de 45 ans.
Et voici nos trois enfants. Alors lui, c'est Pierre, notre aîné, c'est un amour.
Dommage qu'il joue au golf quand même.
Et voici notre Louise, un vrai petit ange, douce et intelligente. En revanche, toujours célibataire.
Elle fait médecine. La seule des trois qui est héritée de notre engagement humaniste, soit dit en passant.
Alors lui, c'est Jules, notre petit dernier.
L'artiste de la famille. Enfin, on ne sait pas très bien encore dans quel domaine.
Et puis, ils s'entendent très bien. Ça fait plaisir.
C'est vrai qu'on les a bien réussis. En revanche, on pensait qu'ils auraient mieux réagi en apprenant la nouvelle.
Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases d'une bonne éducation.
Armel et Emmanuel Patron étaient les invités d'Art Live Entertainment et nous expliquent pourquoi une pièce sur le thème de la famille.
En fait, c'est une phrase qui était « on ne vous donne rien parce qu'on vous aime ». C'est ce paradoxe-là qui nous a plu.
On écrit sur la famille parce qu'on est frères et sœurs et qu'on aime ça, qu'on aime les fratries, qu'on aime la famille. Donc déjà, on voulait écrire sur la famille. Après, le thème est arrivé grâce à cette phrase, effectivement, qui a tout déclenché.
Enfin, toujours pour Art Live Entertainment, il s'exprime sur l'intérêt de la pièce.
C'est vraiment ça qui fait l'intérêt aussi de la pièce, chers parents, je crois, c'est que c'est une pièce d'acteurs. C'est que les cinq acteurs, les cinq personnages sont très très présents tout le temps et il n'y en a pas un qui est là pour faire de la figuration ou pour servir la soupe à l'autre. Les rôles sont équivalents et tout le monde est là tout le temps, quoi.
Juste avant de découvrir Atom dans la rencontre, on s'écoute un petit son super sympa, Prada. Ladies off for years, new strip on the way, rap niggas still sliding bricks, off a kick on the way, Take a flight, you wanna take a lift, on the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Fendi, I'm a Prada. Drip on the way, Rap niggas still sad and bricks. Half a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby. Got strippers tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Fendi, I'm a Prada. From East End, I'm a bad bitch from South. semaine dans la rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir Atohem. C'était en mars dernier à l'occasion du festival Chorus. Atohem, bonjour. On se retrouve aujourd'hui au festival Chorus. Votre set, c'est très bientôt, dans quelques minutes. Vous êtes dans quel état d'esprit pour l'instant ?
On a très très hâte de jouer. On était censé jouer sur la scène Rodin à la base, à 20h50. Et finalement, ça a été décalé sur la scène Capsule, en intérieur. Et on a très très hâte de jouer, ouais.
Vous venez de le dire à l'instant, ce soir vous étiez donc initialement programmé sur la scène Rodin 360. Dernière minute, voilà, conditions météorologiques, vous êtes décalé. C'est ça le live, c'est des annulations, des changements, etc. Vous avez, j'imagine, dû déjà vivre des situations plus cocasses ou encore plus angoissantes peut-être, non ?
Oui, c'est clair. Bah, ce soir, c'est ce qu'on appelle une promotion. Non, mais en vrai, c'est cool. On devait jouer sous la pluie, on va jouer à l'abri et au chaud et avec plein de autant de gens, j'espère. Mais oui, ouais, on a vécu des situations en live chaotiques, hein, en voyant les nuages approcher petit à petit de la scène avec personne devant. Et puis au final, après, c'est bien passé. Ou sinon, je pense à un set qu'on a fait en Allemagne il y a un an et demi, au Fusion Festival. Où au final, on avait tout plugué pendant qu'il y a quelqu'un qui jouait en même temps. Et au final, là, on avait notre carte son qui buguait. Du coup, on l'a enlevé. Antoine l'a ressoudé derrière, genre l'ampe frontale et tout. Mais voilà, ça fait partie du live, tu vois. Genre, on vient avec tout notre matériel sur scène, c'est notre parti pris. Donc, c'est les aléas du live. Et c'est ce qui fait qu'on aime faire ça, tu vois.
Totalement. Vous faites de la musique électronique. Forcément, c'est votre propre matériel. Outre le fait de savoir bien s'en servir, il faut savoir le réparer et tout. Vous deux, vous êtes capables de le faire ou chacun est spécialisé dans un domaine ?
Ouais, je peux réparer ce matériel-là parce que je suis vraiment passionné d'électronique et de bricolage aussi. Le matériel, depuis que je suis tout gosse, avant d'apprendre à m'en servir, j'aime bien l'ouvrir pour comprendre comment il marche. Donc ouais, le réparer, c'est aussi ce que j'aime faire. Dès qu'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas trop un problème finalement, on va le faire nous-mêmes.
Vous venez tout droit de ma région natale, donc la Bretagne. Votre duo date d'il y a un peu plus de 15 ans. Vous êtes l'une des révélations des transmusicales en 2018. Le chemin parcouru, c'est vrai, est remarquable. C'est par hasard que ce duo est né ?
Ouais, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Mais à l'époque, on faisait de la musique rock ensemble. On était dans une formation basse, batterie, guitare, chant. Et on faisait des reprises un peu pétées d'ailleurs. Hein. on va pas se mentir. Et puis petit à petit, on a commencé à se mettre un peu à la synthèse, à remplacer les autres instrumentistes par des claviers, par des synthétiseurs, par de la musique électronique finalement. Et on s'est retrouvés tous les deux, hein, les deux charbonneurs. On a complètement changé de style musical, on est plus parti vers la musique électronique, un petit peu plus expérimentale. Et ouais, c'est un peu par hasard qu'on s'est rencontrés quand même, oui.
Ah, par hasard, oui et non, parce que lui, à l'époque, il avait un groupe de rock et au final, il cherchait un batteur et donc il est tombé sur ce que moi je faisais au bon moment, je pense. Et il m'a écouté répéter. Il m'a dit, ouais, putain, je cherche un batteur. Du coup, vas-y, c'était chaud, let's go.
Je te veux dans mon équipe.
Je te veux dans mon équipe. Et au final, c'est fait comme ça. Je suis allé le voir en concert. Après, on a échangé. Et on s'est tout de suite très bien entendu et après on a commencé à répéter et puis à très vite se projeter en fait, tous les deux. Parce que il vient de le dire, genre on faisait de la musique à 5, mais très vite on s'est rendu compte que moi j'ai toujours eu envie de faire ça et Antoine pareil. Donc voilà, petit à petit, les choses ont fait que les autres ont choisi d'autres chemins, mais nous on était les plus motivés, on va dire, pour faire notre vie de la musique, quoi. Donc finalement, rencontre par hasard, mais destin presque naturel, tu vois.
Super joli. Côté influence, on retrouve le duo néerlandais Weevil, ou encore Atom Earth Mother de Pink Floyd. Vos sons n'évoluent pas dans le rythme effréné, mais plutôt dans une harmonie. C'est un choix réfléchi ou c'est totalement naturel ?
En vrai, nous, dans le casque, on n'écoute pas trop de techno, de musique électronique très rapide. On vient du rock, des 70s... Donc ouais, je pense que ça c'est naturel, tu vois. On a toujours déjà on a commencé par faire de la scène. Donc déjà on est dans la recherche de musicalité, de regard, de communication, tu vois, pour après se représenter en live. Mais oui, ça s'est fait naturellement. Et puis Antoine a un côté très expérimentaliste, tu vois. Genre il va très très loin chercher le grain du son, tu vois, vraiment jusqu'à presque l'obsession, tu vois. Moi j'ai un côté plus académique parce que j'ai fait un conservatoire et tout, et du coup ben les deux ensemble on a trouvé le truc qui fait que ben, du coup Moi, j'ai trouvé des structures, lui, il va pousser le son, et au final, là, on arrive à trouver des morceaux, des structures qui sont un peu fucked up, mais qui nous plaisent, quoi. Donc, l'harmonie, oui, et la synthèse d'abord.
C'est vrai, cette recherche du son, cette recherche de la précision ?
De la précision, certainement pas. Non, au contraire.
Non, la précision, c'est un concept.
Au contraire, c'est plutôt de l'aléatoire, même de l'accident. C'est plutôt cette recherche-là, hein. C'est de la sérendipité, du bel accident. Ouais, on aime bien travailler avec des machines qui sont un petit peu oscillantes, un petit peu imparfaites, exactement. Ouais. Ouais, ce qui va faire que notre son va être imparfait, ambigu, et c'est ce qui est beau dans l'art, je pense.
J'espère. C'est ce qui nous plaît, en tout cas.
C'est ce qui nous plaît.
À deux, le talent n'est que plus grand. Enfin, c'est ce qu'on pourrait voir, en tout cas côté extérieur, ou en tout cas de ma fenêtre. Encore faut-il savoir s'accorder. Est-ce que vous composez à deux ? Est-ce que la danse, elle est menée complètement à deux ? Ou est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu plus dans la recherche, ou je sais pas, ou c'est vraiment à deux que vous réussissez à combiner vos forces ?
Pourquoi à deux, on serait plus talentueux ? Dans ce cas, on va faire un groupe à 100.
Sans oscillateur. Non, il n'y a pas de... Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Enfin, je pense qu'on ne le voit pas du tout comme ça. C'est juste qu'à deux, on a trouvé... en l'autre, quelque chose qui nous rend plus beau, qui nous rend meilleur. Et donc dans ce cas-là, je pense que on le fait mieux, mais c'est pas une question d'addition, en fait, c'est une question juste de recherche d'égalité, d'équilibre, et au final qui arrive à quelque chose dont on est satisfait, tu vois, et c'est le principal. Ouais, c'est une complémentarité, en fait, et c'est ce qui fait que on n'a pas envie de faire la musique tout seul, qu'on se sent bien à deux, et qu'au final on arrive à justement trouver le bon équilibre pour faire la musique qu'on veut, en fait, tout simplement. Et puis après, des fois, on compose des musiques chacun de notre côté, mais il y a toujours une mise en commun qui est fondamentale. À partir du moment où on a envie de sortir ça sous notre projet, on se dit, il faut que l'un et l'autre apportent sa patte à ce projet-là. Donc des fois, c'est on crée quelque chose ensemble, des fois, c'est Antoine arrive avec une idée ou moi une autre, et puis on met en commun, et puis après, on arrive toujours à vers une espèce de tunnel de conversion, vers quelque chose qui, au final, qui nous ressemble, quoi. Mais la question et la recherche de l'égalité, de la symétrie est très importante pour nous.
Okay. Mais justement, pour pouvoir des fois trouver l'inspiration, vous qui êtes breton, c'est important de retourner vers sa terre natale pour pouvoir retrouver cette dynamique qui sommeille en vous, je sais pas.
Forcément, l'environnement va nous stimuler, hein. Là, pour le coup, on était en train de composer notre futur deuxième album, et on est parti s'isoler un peu tous les deux à la mer pendant 2 mois, et ça nous fait du bien. Vraiment, ça nous fait du bien, ça nous rend plutôt imaginatifs, je trouve. Puis...
Ouais, puis ça stimule la créativité, tu vois, de changer de lieu toujours. C'est important de changer de lieu, et de, tu vois, au final, tu te dis, nous on est à Nantes, là, et... Tu sais, des fois, t'es un peu dans le carcan de la ville et tout. Tu te dis, vas-y, en vrai, là, qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois ? Bah, vas-y, on part 3 mois, on va faire que du son. Et là, on revient avec plein de matière. Et puis voilà, là, on est quasiment à, on va dire, 60-70% de notre deuxième album. Donc, c'est cool, tu vois. C'est vraiment un gros coup de pied à l'étrier. Et je pense qu'on en a besoin, tu vois, en tant qu'artiste, genre, vraiment se retrouver seul. Devant la page blanche, et avec un stylo qui est rempli d'encre, tu vois. Et donc voilà, petit à petit, ça s'écrit, et puis c'est cool, tu vois. Enfin, en vrai, on a vraiment besoin, tu vois, de ça.
18h39 sur Radio Campus Paris. C'était la première partie de la rencontre avec Atoem. On s'écoute justement un de leurs titres. Incroyable. Écoutez-le avec attention. Ghost of the Past. Vous allez voyager dans le temps. On va parler justement dans un instant de leur pochette d'album. Donc juste après ce titre, Ghost of Past, la suite avec Atoem.
Stars are only
C'était Ghost of the Past de Atom. On continue avec Atom dans la seconde partie de la rencontre.
Le deuxième album, on va y revenir. Juste avant, j'aimerais bien comprendre un petit peu ce qui vous a entouré quand vous étiez plus jeune. Quel était votre environnement? Est-ce que vous étiez tout de suite baigné dans la musique? Est-ce que vos parents écoutaient eux-mêmes du rock? Ou absolument pas?
Pour ma part, en premier, mon père m'a fait écouter les Doors. Ma mère faisait du violon, mon père est plasticien. Enfin voilà, j'ai toujours été baigné dans les arts. Ma sœur est pianiste. Et tout de suite, j'ai trouvé un réconfort absolu dans la musique et je me suis noyé dedans. Et en fait, c'est une passion qui est tellement insatiable que je pense jamais que je ferai autre chose de ma vie, tu vois. Et oui, ça a commencé par les 70s, le rock psychédélique.
Exactement. Bah, un peu pareil, hein. Finalement, mon père est guitariste. Il m'a appris les rudiments de la guitare quand j'étais tout jeune. Et c'était très vite devenu une évidence pour moi dès que j'avais 10 ans. Je savais que je voulais faire ça de ma vie. Et j'en ai fait jusqu'à me saigner les doigts, littéralement. Quand j'ai rencontré Gabriel, on a charbonné tous les deux pour faire en sorte que ça en devienne une réalité.
En physique, l'entropie désigne le degré de désordre dans un système. Ça, c'est dit. Vous voyez vos créations comme déstructuré parfois, est-ce que c'est vrai ou sinon alors pourquoi ce titre pour ce dernier album?
En fait justement on a essayé de rapprocher cette notion de physique à beaucoup d'éléments qu'on a essayé de rapprocher du côté un peu plus social, beaucoup plus émotionnel, politique également de ce qu'on a fait finalement. On a écrit des morceaux qui étaient un petit peu plus révoltés politiques. On a écrit des morceaux avec des textes complètement absurdes dans le sens chaotique, dans la verve, ouais, chaos sémantique. On a essayé d'écrire des morceaux qui étaient un petit peu plus qui venaient du cœur.
Et puis ouais, en fait finalement c'est partir d'une notion, partir d'un concept de l'entropie, puis finalement arriver à le digérer chacun de notre manière avec plein d'axes différents qui font à chaque fois un morceau différent. Et même si c'est un concept qui est relativement complexe de prime abord, finalement je pense que en le restituant de manière chaotique, déstructurée, avec des textures parfois complètement proche du chaos, et ben finalement c'est quelque chose qui au final rend accessible ce concept qui est d'emblée déjà un peu j'ai pas envie de dire excluant, mais un peu, enfin voilà, nerdy.
Vos productions sont très envoûtantes, on peut facilement se laisser transporter dans un autre monde, on ferme les yeux, ça y est, on est hors du temps. La pochette de l'album ne ment pas, mais j'aimerais connaître tous les détails, ou du moins vous entendre sur les spécificités de cette pochette, parce qu'elle est très soignée, il y a de la recherche derrière, elle est signée Atom.
Alors en fait, on a travaillé avec un artiste qui vient de Strasbourg, qui s'appelle Timothée Boubet, et qui travaille pour le label Rythmo Fatale, entre guillemets, enfin entre autres, qui est à Toulouse. Et en fait, on aimait beaucoup son approche presque... sci-fi, mais plus du côté art, moins du côté boutonneux, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il arrivait à représenter une forme, une forme de contraste, d'absurde, et en même temps de nous, ce qu'on imaginait comme une forme de futur, tu vois.
Surréaliste
complètement, et ça nous a grave fait kiffer. Donc on l'a contacté, et puis on lui a dit, vas-y mec, en vrai, fonce. On va faire toute la DA de l'album avec toi. Et du coup, il était très chaud. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'était de représenter les différents états de la matière. Donc, sur la pochette, on a une espèce de sablier inversé qui peut représenter le grain de la matière, finalement. Et on a sorti plusieurs singles. Et chacun des singles différents était repris avec le même pattern, mais finalement, avec un autre état de la matière. Donc, on a eu l'état gazeux, on a eu l'état solide, l'état liquide. Donc voilà, c'est un peu les sous-titres, tu vois, mais pour nous c'est important, tu vois, de mettre du sens derrière juste un visuel, mettre du sens derrière un morceau, une phrase, tu vois, enfin, je sais pas, on aime bien.
C'est marrant d'ailleurs, t'as dit hors du temps. Oui. Hors du temps, c'est un peu aussi l'idée, hors du temps, le temps c'est quelque chose qui nous fait très peur à Gabriel et moi, je pense. On a un peu, ouais, forcément, mais on a représenté un peu cette pochette, cette cover avec un genre de sablier. Sauf que concrètement, c'est pas vraiment un sablier, c'est de la matière qui tombe et qui va rentrer dans un état qu'on appelle de Bose-Einstein, le cinquième état de la matière que personne ne connaît. Hein, mais... Donc voilà, il y avait l'état solide, liquide, gazeux, l'état plasma aussi. Et l'état de la pochette, c'est l'état de Bose-Einstein. Voilà, c'est... fallait le placer.
Ça, c'est pour ses profs de fac, ça.
Mais c'est exactement la réponse que j'attendais, en tout cas. Nice. Seulement deux des 14 titres sont proposés en français, entre guillemets. Vous avez une affinité particulière avec la langue de Shakespeare ou bien ?
Non, disons que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, nous, on a grandi avec des musiques plutôt anglo-saxonnes, tu vois, que ce soit les Clash ou Nina Hagen ou les Ramones, les Floyd, les Doors. Donc, je pense que d'emblée, on était sensibilisés à la musique en anglais, enfin le texte en anglais, le lyrisme en anglais, même si on n'est pas des bilingues absolus, tu vois. Mais disons que, je sais pas, on trouve qu'il y a une musicalité qui est plus évidente pour nous en anglais, quoi. Après, on a fait un morceau effectivement en français, Les couleurs du son, avec un de nos meilleurs potes qui s'appelle Max. Et son projet, c'est NVVN. Et en fait, il nous a écrit un texte en français qu'on trouvait hyper... On a toujours pas compris en fait ce qu'il voulait dire vraiment, mais on le trouvait trop très 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 poétique, tu vois, très beau, très très sincère, très sensible. Donc vas-y, on s'est dit, vas-y, on le met dedans direct, quoi. Donc nous, on chante pas en français, mais c'est pas quelque chose qui est inenvisageable.
Si vous deviez réaliser un son en collab, ce sera avec qui?
Avec David Gilmour et Mangalter, les deux en même temps. Bon, on disait, on est très fan de Weival, donc ça serait incroyable pour nous de jouer avec ce duo un jour.
Pour terminer, votre dernier album est récent, il est sorti fin 2023. Vous avez déjà une idée en tête pour la suite? Vous me parliez d'un deuxième album.
Alors, sans en dire trop, là on est déjà en train de travailler sur le deuxième, donc on a quasiment fait la moitié, enfin un peu plus même. Mais c'est quelque chose qui va plus questionner l'être humain, vraiment en tant qu'être. Tu vois, que ce soit au sens physique, mais aussi au sens sensoriel, psychologique, tangible. Et en fait, on va un peu questionner ça. Tu vois, de quoi on est fait? De quoi on est fait? Donc voilà, ce sera un peu le thème du deuxième album. Enfin, ce sera carrément le thème, voire même le titre. Donc voilà, dans les bacs bientôt.
Très curieux de voir à quoi ça va ressembler. Où est-ce que vous allez encore nous transporter pour ce prochain album? Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour ce soir.
Atom, une rencontre à retrouver sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. Bien sûr, vous pouvez retrouver également l'ensemble des dernières interviews que nous avons réalisées. Quelques noms qui me viennent comme ça, Boom par exemple, Simoni, Marco Ferreira. Voilà, l'ensemble de ces interviews sont à retrouver sur Spotify ou même sur le site de Radio Campus Paris. Bien évidemment, tout de suite, Sortir à Paris. Comme chaque semaine, de nombreuses sorties s'offrent à vous. Aujourd'hui, moi, je vous emmène au festival Solidays qui se déroule du 28 au 30 juin prochain à Paris-Longchamp. À l'affiche, retrouvez Gazo, Etia Cola, Martin Garrix, Louise Attac, PLK, Sam Smith ou encore Zola. Né dans une chambre de bonne de 14 mètres carrés, dans la tête de deux étudiants prêts à changer le monde, le festival Solidays n'est pas vraiment un festival comme les autres. Construit sur des valeurs de partage et d'entraide, il nourrit réellement les esprits, réveille les consciences et rapproche les gens. Solidays est aussi un outil performant contre le sida et la détresse humaine. Grâce à son succès, de nombreux programmes d'aide aux malades et de prévention ont pu être financés. Près de 4 millions de festivaliers ont déjà foulé les pelouses de Longchamp depuis ce jour de 1999 où Robbie Williams ou encore Jean-Jacques Goldman ont inauguré la scène principale. Alors 25 ans plus tard, Solidays est plus que jamais d'intérêt public. Une seule chose à vous dire donc, rendez-vous le 28 juin prochain pour l'ouverture du festival. Est-ce qu'il y a des gens autour de cette table qui vont au festival? Thomas, je crois que tu y vas, non?
Yes, j'ai pris ma place du coup pour y aller le samedi.
Ok.
J'ai vu la prog, très très hâte d'y être. Hein.
Forcément, ça va être carrément, on va pouvoir taper du pied.
Exactement, j'ai hâte. En plus, le samedi, ça ferme un peu tard. Donc,
cool.
On va pouvoir danser comme il faut.
Exactement. Merci à tous, à tous les trois d'avoir intervenu aujourd'hui dans l'émission. Axel, si je dis pas de bêtises, en 10 secondes, le 29 juin, c'est Convivialité Automobile qu'il faut retenir.
Exactement, c'est ça qu'il faut retenir, les plus belles routes de rallye dans les hauteurs de Monaco.
Voilà, pour le prochain événement, Laurie qui nous a parlé du film Challengers. Pour la suite, tu recherches un stage, un emploi, parce que tu veux travailler dans le cinéma, n'est-ce pas ?
Exactement, la dame cherche un CDI pour septembre.
Donc pour ceux qui cherchent eh bien voilà, des passionnés de cinéma et qui travaillent avec passion, n'hésitez pas à contacter la radio Quentin Perki pour pouvoir avoir les contacts de Laurie. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 8 juin prochain. Surtout, prenez soin de vous. Paris Culture revient. Voilà, rendez-vous dans 2 semaines. Bye bye.